18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bonsoir à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver pour votre grand journal du soir. Toute l'information du jour de cette fin de semaine, des interviews, du recul aussi pour tout comprendre, c'est jusqu'à 20h. Alors à la une ce soir, l'hypothèse est prise au sérieux par les États-Unis. Le Covid-19 s'est-il échappé d'un laboratoire de Wuhan en Chine? Toutes les explications, c'est dans un instant dans votre journal. Isabelle Millet, bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
18h20, comme tous les vendredis, désormais, on donne la parole à des philosophes, des sociologues, pour prendre un petit peu de hauteur. Ce soir, la distanciation sociale va-t-elle changer notre comportement? La philosophe Cynthia Fleury sera mon invitée dans 20 minutes maintenant. 19h30, cinquième week-end de confinement, et oui, ça passe vite, hein. On va vous donner plein d'idées encore pour passer une belle fin de semaine, l'occasion notamment de réécouter Christophe, qui est décédé la nuit dernière et que vous aimiez tant. Voilà pour le programme de ce vendredi soir, la rédaction sur le pont mobilisé pour vous informer jusqu'à 20h.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Les premiers cas avérés, attestés d'ailleurs par les Chinois eux-mêmes, ne proviennent pas du fameux marché aux poissons et aux animaux sauvages.
Le coronavirus se serait-il échappé accidentellement, non pas d'un marché, mais d'un laboratoire mal sécurisé? Les États-Unis lancent une enquête.
Dans ce journal également, les informations en avant-première de la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal. Elle est notre invitée dans un instant. Elle nous révélera les dates des concours d'entrée pour les grandes écoles.
1081 marins finalement testés positifs au Covid-19 à bord du Charles de Gaulle. La ministre des Armées dément avoir refusé d'interrompre la mission.
Il a été dit que le pacha du porte-avions avait souhaité interrompre la mission lors de l'escale de Brest. Cette rumeur est fausse.
À partir du 1er mai, les personnes en arrêt de travail pour garde d'enfants seront considérées comme étant en chômage partiel. Elles rejoindront donc les 9 millions de Français qui bénéficient déjà aujourd'hui de cette mesure.
Et comme tous les soirs, vos questions au docteur Jimmy Mohamed. Ce soir, on s'interrogera sur la fumée de cigarette. Est-elle susceptible de transmettre le virus?
Il disait lui-même qu'il n'était pas chanteur, mais qu'il faisait des sons avec la bouche. Le chanteur Christophe s'est éteint la nuit dernière à 73 ans. Un artiste intemporel qui a inspiré de nombreux autres jeunes artistes. Je suis comme une boule de flipper. Et notamment Juliette Armanet qui interprète, on l'entend, une chanson de Christophe, Boule de Flipper, qui a été interprétée par Corinne Charby, on s'en souvient. La Bourse de Paris a terminé nettement dans le vert ce soir, plus 3,42% à 4 499 points.
Bonsoir Anissa, le ciel de ce week-end.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Eh bien j'espère qu'à vos fenêtres, à vos balcons et dans vos jardins, vous avez profité du soleil aujourd'hui, parce que demain le temps devient très agité avec de nombreux orages, des averses sur toute la moitié ouest du pays. Je vous donne tout le détail de ce week-end agité à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Nathalie Lévy et Isabelle Millet.
Et si le Covid-19 n'était pas apparu sur un marché aux animaux à Wuhan en Chine, comme l'on laisse entendre hein, depuis le début, si le virus s'était plutôt échappé d'un laboratoire, cette thèse est de plus en plus évoquée, en particulier par les médias américains.
Avec plusieurs indices, hein, laissent penser que la Chine n'aurait pas tout dit. Bonsoir Théo Menval.
Bonsoir.
Alors bien sûr, il faut prendre toutes les précautions d'usage, hein, toutes les précautions nécessaires, mais cette théorie, elle est bel et bien en train de prendre de l'ampleur. Hein.
Oui, et à l'origine, ce sont ces révélations, il y a quelques jours, du Washington Post. Des diplomates américains, dit le journal, ont visité à plusieurs reprises l'Institut de virologie de Wuhan il y a 2 ans. Et ils ont envoyé 2 avertissements officiels à Washington pour alerter sur les carences en matière de sécurité, d'étanchéité, si vous voulez, alors qu'y étaient menées des études sur les coronavirus provenant de chauves-souris. L'information a fait grand bruit, au point que certaines figures controversées, comme le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, avancent aujourd'hui que ce nouveau virus y aurait été créé de toutes pièces. Déclaration fracassante sur le site Pourquoi Docteur.
Le génome complet de ce nouveau virus a des séquences d'un autre virus qui est le virus du sida. Ce virus a échappé peut-être à ses promoteurs. Je pense, enfin c'est l'hypothèse la plus raisonnable, qu'il voulait faire un vaccin contre le VIH.
Mais cette hypothèse d'un virus créé par l'homme est battue en brèche par l'essentiel du corps scientifique, à commencer par l'Institut Pasteur qui a étudié son code génétique. Des points communs avec d'autres virus sont fréquents et rien ne permet de dire ici qu'il y aurait eu intervention humaine, assure un chercheur. Reste cette piste donc d'une fuite par accident. L'historien François Godemont est spécialiste de la Chine à l'Institut Montaigne.
C'est bien sûr la plus explosive. Elle n'est pas démontrée. Il n'y a pas de preuves. Il y a simplement
quelques indices. Premièrement, les premiers cas avérés, attestés d'ailleurs par les Chinois eux-mêmes, ne proviennent pas du fameux marché aux poissons et aux animaux sauvages. Deuxièmement, la Chine ne donne pas accès aux premiers spécimens du virus lui-même.
Et la Chine continue d'ailleurs de démentir, mais sans convaincre, le chef de la diplomatie américaine annonce l'ouverture d'une enquête.
Merci pour ces précisions, Théo Manval.
Alors, la Chine nous a-t-elle caché des choses sur cette histoire de laboratoire, mais aussi sur le bilan des victimes? Pékin a publié de nouveaux chiffres aujourd'hui, revus à la hausse de près de 40%, hein, près de 1300 décès supplémentaires, donc alors même que les critiques s'accumulent à Paris, dans la voix d'Emmanuel Macron, Londres et Washington, à propos de la gestion de l'épidémie par Pékin.
Et vous lisiez le président français, notamment hein, dans le Financial Times. Du côté de l'Élysée, on balaye hein, cet après-midi l'idée d'un lien entre l'origine du Covid-19 et les travaux du laboratoire P4 de Wuhan en Chine. La France appelle néanmoins la Chine à plus de transparence dans la gestion de cette crise.
Et notez qu'on sera en Chine à 19h justement avec le correspondant d'Europe 1, Sébastien Lebelzik. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est avec nous ce soir. Bonsoir Frédéric Vidal.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur Europe 1. On va parler de ce qu'est véritablement l'enseignement supérieur et les examens dans un petit instant. Mais vous avez entendu le professeur Luc Montagnier ce matin, prix Nobel de médecine, on l'a rappelé, qui a lui clairement livré ses doutes, comme d'ailleurs le président Macron, sur la venue, sur le démarrage du virus à Wuhan. Est-ce que ce soir, vous êtes en mesure de démentir formellement ces propos?
Alors, en réalité, je me fonde sur ce qui a été dit par l'Institut Pasteur, qui a été le premier à séquencer le génome de ce virus en Europe, et qui dit que rien ne prouve que ce soit un virus qui ne soit pas d'origine animale et qu'on ne soit pas dans le cadre d'une zoonose classique. Je pense que le raccourci que vous avez fait sur ce qu'a dit le président de la République concernant le fait qu'il y avait encore des zones d'ombre dans la gestion de cette pandémie par la Chine, et ce qu'a dit le professeur Montagnier, là je le laisse vraiment sous votre responsabilité. Ce qui est très clair, c'est que effectivement nous travaillons avec la Chine pour mieux comprendre ce qui a pu se passer en termes de pandémie.
Alors, le président Emmanuel Macron, vous nous dites que vous ne confirmez pas les propos du président. Néanmoins, il a quand même émis un certain nombre de doutes. Hein. Et outre le président Emmanuel Macron, il y a l'article du très sérieux Washington Post. Il y a aussi les doutes, globalement, hein, de l'administration américaine aujourd'hui, ce qui fait qu'il commence à faire beaucoup et ce qui fait qu'il est toujours bon, de toute façon, de s'interroger. On va revenir avec vous, évidemment, Madame la Ministre, sur ce qui est votre spécialité. Avec vous, Isabelle.
Oui, et cette info maintenant, Nathalie, hein, qui concerne tous ceux d'entre vous qui ont été obligés de se mettre en arrêt afin de pouvoir garder leurs enfants, parce que le télétravail avec un bébé ou un jeune enfant à la maison, bah, ça n'est pas toujours facile, voire impossible. Hein. Eh bien, les choses vont évoluer pour ces personnes à partir du 1er mai, Aurélien Fleureau.
Oui, cela concerne un peu plus de 2 millions de salariés actuellement en arrêt de travail pour garder leurs enfants ou parce qu'ils sont vulnérables à cause du Covid-19, c'est-à-dire des personnes qui souffrent d'une maladie chronique ou de faiblesse respiratoire. Eh bien, ils vont passer en chômage partiel, ce qui leur permettra d'être mieux indemnisés qu'en restant en arrêt de travail, puisque le régime d'indemnité journalière qui a été mis en place depuis le début du confinement aurait eu pour conséquence de faire passer leur niveau d'indemnisation de 90% du salaire net à 66% à partir du 30e jour d'arrêt de travail, ce qui veut dire que dès le 1er mai, bien, ils vont toucher 70% de leur salaire brut, soit 84% du net environ. Ce sera d'ailleurs 100% du salaire pour les personnes rémunérées au niveau du SMIC. Donc plus d'arrêt de travail à partir du 1er mai, sauf pour les travailleurs indépendants, les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public. Pas de changement d'indemnisation pour eux. Un nouveau dispositif qui va encore faire grimper le nombre de salariés placés en activité partielle. 9 millions de Français déjà concernés, soit plus d'un salarié sur trois.
Les précisions d'Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Et ça va soulager beaucoup de parents. La reprise progressive des cours dans le primaire et dans le secondaire qui est à peu près actée, hein, à compter du 11 mai prochain. En revanche, les étudiants, eux, ne sont pas encore tous fixés sur leur sort. Et ça tombe bien parce qu'on a des infos pour eux ce soir, puisque vous le savez, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédéric Vidal, est toujours en direct avec nous.
Et oui, Madame la Ministre, alors les cours en fac ne vont pas reprendre avant la rentrée, ça on le sait depuis lundi soir, Emmanuel Macron l'a dit, mais il y a d'autres étudiants qui s'inquiètent pour leur avenir. Alors vous allez nous révéler ce soir que les épreuves des concours d'entrée dans les grandes écoles seront bel et bien organisées. De quand à quand précisément et quelles écoles?
Alors, toutes les épreuves des concours d'entrée dans les écoles à l'issue des classes préparatoires ont effectivement été reprogrammées dans le cadre d'un comité de pilotage interministériel entre le 20 juin et le 7 août 2020.
Alors, entre le 20 juin et le 7 août 2020, quelles écoles sont concernées précisément ?
L'ensemble des écoles qui sont accessibles par concours après les classes préparatoires aux grandes écoles. Nous avons travaillé avec l'ensemble de ces écoles de façon à pouvoir reprogrammer un calendrier de l'ensemble des concours. Et donc, c'est ce que je suis en mesure de vous annoncer ce soir. En termes de date, les épreuves se dérouleront entre le 20 juin et le 7 août.
D'accord. On sait à peu près combien d'écoles cela concerne, Madame la Ministre ?
Ah, ça concerne plusieurs centaines d'écoles et plusieurs centaines de milliers de candidats.
D'accord. Alors, évidemment, la question...
Il s'agit de toutes les écoles que l'on parle, des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, toutes les écoles qui sont accessibles par concours après les classes préparatoires aux grandes écoles.
D'accord. Alors, la question qui se pose, c'est évidemment les conditions. Comment allez-vous faire pour faire respecter les gestes barrières, pour avoir des étudiants qui vont pouvoir plancher dans des salles décontaminées, en tout cas qui auront été nettoyées en amont, et puis avec quel type de professeurs également ?
C'est pour ça que, évidemment, le comité de pilotage qui a d'abord travaillé à ce calendrier va poursuivre son travail. En termes de logistique, évidemment, toutes les mesures sanitaires seront prises pour garantir la sécurité des candidats comme la sécurité des surveillants, d'ailleurs, hein, dans le respect le plus strict des consignes sanitaires en vigueur. Et donc, c'est maintenant le travail qui va être fait de préparer les salles, la volumétrie des salles. Et ça, c'est le travail qui va démarrer dès le début de la semaine prochaine, sous l'égide du comité de pilotage et de la doyenne de l'inspection générale, Madame Caroline Pascal, qui pilote ce comité.
Donc tout sera mis en place à partir de la semaine prochaine, vous le dites, et coup d'envoi donc des examens du 20 juin au 7 août prochain. Merci beaucoup Madame la Ministre Frédérique Vidal d'avoir répondu ce soir à nos questions en direct sur Europe 1 et cette annonce importante pour des milliers, des millions d'étudiants évidemment. Merci à vous.
Europe 1.
Et votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec Isabelle Millet et Nathalie Lévy.
À suivre dans cette édition de 18h, les marins testés positifs à bord du porte-avions Charles de Gaulle. On le disait hier, en fait, ils sont bien plus nombreux. La ministre des Armées, Florence Parly, sommet de s'expliquer cet après-midi même.
Et puis la disparition du chanteur Christophe qui a largement inspiré la jeune génération.
Europe 1.
Et maintenant, voici la Minute Maison avec les experts Leroy Merlin.
Eh bien, aujourd'hui, on se retrouve. Alors, je suis en compagnie de David Desmarais, responsable jardin au magasin Leroy Merlin de Logne. Alors, David, si on est confiné dans une maison avec un jardin qui a une partie potager, concrètement, en ce moment, qu'est-ce qu'il faut y faire ?
Ce que l'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va venir nourrir son potager et puis faire les semis.
Ça veut dire quoi, bien préparer son potager ?
Ça veut dire qu'on va travailler le sol, on va apporter de l'engrais naturel et puis on va venir faire nos semis.
Au niveau des légumes, certains poussent en 18 jours, d'autres en 2 mois. Comment on va s'organiser pour avoir au bon moment les bons légumes ?
Dans un premier temps, au mois d'avril, on va venir planter les plantes aromatiques qui vont prendre le temps de s'enraciner. On va venir ensuite faire nos semis style radis, carottes. Et puis, on viendra mettre dans un second temps les salades.
Mais voilà, il ne nous reste plus qu'à suivre ces bons conseils pour organiser son potager, pour avoir de beaux légumes tout au long de l'année. Et puis, en attendant la réouverture des magasins Leroy Merlin, je vous propose de retrouver plus de 180 cours de bricolage, tutos, vidéos et conseils déco et jardin sur le site leroymerlin.fr. Merci David Desmarais, à bientôt.
À très bientôt.
Et on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau conseil pratique avec Leroy Merlin.
Particuliers, professionnels, associations ou entreprises, pour vous soutenir dans la crise actuelle, les conseillers BNP Paribas se mobilisent. Pour répondre à toutes vos questions et vous apporter les solutions les plus adaptées, nous sommes là pour vous, à distance ou en agence. BNP Paribas, engagés à vos côtés. Pour la sécurité de tous, nous vous invitons à privilégier les contacts à distance.
18h13 sur Europe 1, la suite du journal avec Nathalie Lévy, Isabelle Millet.
Et ça commence à faire vraiment beaucoup. Le nombre de marins contaminés par le coronavirus à bord du porte-avions Charles de Gaulle ne cesse de grimper.
Et oui, la dernière nouvelle, ils sont 1081 à avoir été testés positifs. Hélène Terzian, la ministre des Armées, a été auditionnée cet après-midi même, Florence Parly, par une commission spéciale. L'objectif, c'était notamment d'apporter des réponses sur l'origine de l'arrivée du virus à bord.
Effectivement, face aux doutes et interrogations des députés autour de cette contamination, Florence Parly avance plusieurs hypothèses. L'escale du porte-avions fin février à Chypre maintenue, notamment pour des questions logistiques, mais surtout la dernière escale à Brest du 13 au 16 mars, juste avant le confinement, et qui est au centre des attentions. Une visite des familles prévues à bord est annulée, mais des marins ont vu leurs proches à terre. Des précautions sont alors prévues, dit-elle, pour limiter les risques. En évoquant cette escale, c'est aussi l'occasion pour la ministre de démentir un désaccord dans la chaîne de décision avec le commandant du porte-avions.
Il a été dit que le pacha du porte-avions avait souhaité interrompre la mission du groupe aéronaval lors de l'escale de Brest. Cette rumeur est fausse.
Florence Parly rappelle aussi que c'est le 7 avril qu'elle a été informée pour la première fois par le chef d'état-major de la marine de la présence de cas symptomatiques à bord. C'est à ce moment-là que la ministre prend la décision de mettre fin à la mission du porte-avions et d'anticiper son retour à Toulon. Aujourd'hui, la campagne de tests se poursuit et vous l'avez dit, 1081 marins sont contaminés. Les enquêtes épidémiologiques et de commandement sont en cours. Florence Parly espère obtenir à minima un point d'étape dans deux semaines.
Les précisions d'Hélène Terzian. Et il est là, comme chaque soir, le docteur Jimmy Mohamed est avec nous. Vous êtes toujours très nombreux, hein, aujourd'hui encore, à lui poser toutes vos questions avec le hashtag Radio Ouverte. Bonsoir, docteur.
Bonsoir, Isabelle. Bonsoir à toutes et à tous.
Alors, ce soir, on a une question spécifique de François de Montpellier. Question que, personnellement, je m'étais déjà posée en croisant des fumeurs dans la rue. La fumée des cigarettes, et même des cigarettes électroniques, est-elle susceptible de transporter le virus ?
Eh bien oui, écoutez, la fumée liée à la cigarette ou la cigarette électronique semble être un vecteur du virus du coronavirus. C'est le Comité national contre le tabagisme qui l'affirme très clairement. Les fumeurs infectés par le coronavirus sont des contamineurs potentiellement majeurs de leur entourage par du tabagisme passif et ils vont même plus loin. Ils considèrent que la fumée qu'on va déposer sur des objets pourrait contaminer d'autres personnes. La conséquence, elle est plutôt simple. Un, il est évident qu'il faudrait donc arrêter de fumer, c'est peut-être le bon moment. Et deux, il faudrait respecter une distanciation sociale de 10 mètres entre deux fumeurs. Enfin, pour intéresser les non-fumeurs, la simple parole à haute voix peut générer des gouttelettes contaminantes et même la simple parole. Raison pour laquelle il faudra probablement tous porter des masques. Et puis de toute façon, fumer et porter un masque, ça semble compliqué. Donc c'est peut-être vraiment le moment d'arrêter de fumer.
Effectivement. Ouais. Docteur Jimmy Mohamed, que l'on retrouve tout à l'heure hein, dans les grandes voies. Et tous les soirs dans ce journal de 18h. Et bien entendu, l'après-midi, c'est à 15h dans l'émission Sans Rendez-vous avec Mélanie Gomez. Des nouvelles de nos voisins, Isabelle hein.
Oui, l'Espagne s'apprête à franchir la barre des 20 000 morts. La barre des 5 000 morts a été franchie en Belgique. L'Italie va tester une application de traçage dans plusieurs régions basée sur la technologie Bluetooth et non sur la géolocalisation. Chacun pourra choisir de la télécharger ou non. Le gouvernement allemand affirme, lui, que l'épidémie est maintenant sous contrôle. Berlin a annoncé hier un assouplissement de ses mesures de restriction en rouvrant les magasins. Et ce sera le cas aussi pour les écoles et les lycées à partir du 4 mai.
Et puis, on va aller à Berlin dans notre journal de 19h pour suivre la situation sur place hein, de près.
Voilà, et puis alors que la situation est aussi très préoccupante, au Royaume-Uni avec près de 14 000 morts, un Britannique de 99 ans est devenu un héros en quelque sorte après avoir collecté plus de 18 millions de livres pour les soignants. Vous savez ce qu'il a fait, ce vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, il s'est lancé comme défi de parcourir 100 longueurs dans son jardin à l'aide de son déambulateur.
Ouais, voilà, tout est possible. Et puis ces musiques qui nous trottent dans la tête depuis ce matin, depuis que l'on a appris la disparition d'un artiste complet, du chanteur Christophe, lui qui criait Aline pour qu'elle revienne, qui aimait la vie, la nuit, le jeu, les voitures rapides. Christophe a été emporté par une maladie pulmonaire la nuit dernière à l'âge de 74 ans.
Oui, Christophe qui avait cette qualité incroyable de fédérer les générations. Il a fait danser nos parents, mais on l'a toujours eu nous aussi, hein, dans un coin de notre tête. Et puis la jeune génération de chanteurs a également toujours eu beaucoup d'affection pour lui. D'ailleurs, Angèle Châtelier, beaucoup d'artistes aujourd'hui ont même repris certains de ses tubes.
Sur chaque chanson de ses deux derniers albums, Christophe est accompagné de Philippe Catherine, Arnaud, Pascal Obispo, mais aussi d'artistes de la nouvelle scène qui reprennent ses tubes ou des chansons qu'il affectionnait. Ici, Arthur Théboul, le chanteur du groupe de rock Feu Chatterton, sur la chanson Le Beau Bizarre.
Quand la goût amère, le jour, c'était hier.
Jeanne Hadet, chanteuse de rock et d'électro, victorisée plusieurs fois, chante avec lui sur La Petite Fille du Troisième.
Je vois tout.
Sa
rencontre avec Christophe date d'il y a 10 ans. Jeanne Hadid était dans le public d'un de ses concerts au Palais des Papes à Avignon.
Ça avait vraiment été un choc de ce que ça avait de beau, la musique populaire, dans le sens où à quel point les chansons existaient sans lui, en fait, et à quel point elles nous appartenaient à nous.
Dans ce dernier album, il y a aussi la chanteuse Mathilda, 25 ans, qui n'a que quelques titres à son actif, ou encore Juliette Armanet, qui reprend avec Christophe Une boule de flipper de Corinne Charby. Juliette Armanet d'ailleurs, qui n'a jamais caché son admiration pour Christophe et sa musique qui l'a beaucoup influencée. Elle est très émue du décès du chanteur, à en croire ce qu'elle a partagé sur les réseaux sociaux. Une photo d'eux en noir et blanc avec inscrit dessus la phrase « Un grand amour ».
Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux parler.
Et celle-là, on l'a dans la tête au moins jusqu'à ce soir. Hein.
Ah, celle-là et les autres, bien sûr. Merci beaucoup Isabelle Millet. On vous retrouve tout à l'heure à 18h30.